Voici ce qu'écrivait Thierry Leclerc dans Télérama du mois de mai 2010. Quand Franck Étienne, l'immense écrivain et dramaturge haïtien, figure emblématique de la culture de l'île, inscrit depuis plusieurs années sur la liste des prix Nobel putatifs, apparut à sa fenêtre quelques heures après le tragique tremblement de terre du 12 janvier 2010, ce fut une ovation. Ses voisins de Delmas, ce quartier populé de Port-au-Prince, dans lequel l'écrivain vit depuis plus de 30 ans, retranché derrière ses hauts murs en « solitaire solidaire », comme il le dit lui-même, saluèrent son apparition comme un don du ciel dans l'enfer des corps écrasés, des maisons affaissées et des monceaux de gravats jonchant la rue. L'information se répandit comme une traînée de poudre. Le poète est vivant, le poète est vivant. Didier Kahn, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour continuer notre conversation sur la poésie et son urgence à l'heure des bouleversements technologiques et climatiques, à l'heure des certitudes aussi nombreuses que les doutes qu'ils suscitent. L'anecdote que je viens de rapporter, sans doute d'ailleurs plus qu'une anecdote, invite aux commentaires. J'ai l'impression que votre livre « Trois pères, Jabès, Derrida et Duboucher », dont nous avons commencé à parler la semaine dernière, vient dire lui aussi que les poètes sont vivants, une façon de faire écho avec prudence et humilité, comme le fit André Duboucher lui-même, qui à la question que lui posait en 1995, une journaliste qui reprenait le célèbre propos de Hölderlin, « Pourquoi des poètes en temps de détresse ?» répondait « Tous les temps sont des temps de détresse, il y a quelquefois des poètes. » Les poètes sont-ils encore vivants, Didier Kahn? Question délicate, car je la pose à un poète, et dès lors, la question est profondément existentielle, et la réponse relève sans aucun doute aussi d'une forme d'engagement.
Oui, il y a une multiplicité de poètes. L'année dernière, les éditions Flammarion ont publié une anthologie avec 1000 poètes francophones qui ont publié à compte d'éditeurs entre 1950 et maintenant. Donc ça vous donne une petite idée, anthologie contestable par ailleurs, mais ça vous donne une petite idée de la profusion des paroles. Je crois que les poètes sont vivants parce que la parole est vivante, parce que la langue est vivante et parce que il y a une multiplicité d'aventures, une multiplicité d'expériences qui doivent se dire et se dire autrement qu'en utilisant une langue qui est maintenant, je dirais, très souvent en tout cas appauvrie dans son usage courant, dans son usage quotidien. Et il y a une poésie qui effectivement consiste à fouiller la langue, à chercher autre chose, à chercher d'autres façons de parler, à faire parler la langue. La langue est trop souvent muette dans le quotidien. On ne l'entend même plus. Et par conséquent, heureusement qu'il y a des gens. Alors, sont-ils des poètes? C'est un nom très compliqué, vous savez. Il y a des images de la poésie et des poètes qui sont des images qui nous collent à la peau. Bon, moi, quand on me demande si je suis poète, je dis non, j'aime le foot, j'aime le rock, je suis pas poète. Enfin bon, ce qui est vrai, d'ailleurs, j'ai eu une vie tout à fait quotidienne, une vie, j'étais directeur de la vie étudiante dans un établissement scolaire et je l'ai très bien vécu et ça m'a pas empêché d'écrire des livres de poésie. Et simplement parce que cette langue, elle nous habite. Et cette langue nous permet aussi de retrouver une autre partie de nous-mêmes. Chacun, je crois que c'est là qu'il y a une universalité. Chacun est en quelque sorte habité au plus profond du même par une forme d'altérité. Et je crois que la poésie, c'est aussi une façon d'accéder à cette altérité qui nous habite. Donc une expérience qu'on peut partager avec d'autres.
Mais est-ce que vous sentez cet engagement pour le langage comme ce qui pourrait éventuellement faire obstacle à cet aplanissement du langage? Est-ce que c'est un engagement, pas simplement quelque chose que vous aimez, mais quelque chose que vous devez?
Il y a les deux. Il y a les deux. Il faut aimer parler pour être poète, sûrement, et aimer parler en silence, aimer parler silencieusement, ce qu'on ne fait pas à la radio, hélas. Mais je crois qu'effectivement, s'il n'y a pas un engagement d'un sujet qui est prêt à aller jusqu'au bout de l'aventure, André Duboucher, de ce point de vue-là, était un modèle. C'est peut-être le dernier des poètes, dans le sens où il a absolument engagé toute sa vie dans le seul exercice de la parole. Il a dit, par exemple, vous savez, c'est regarder le ciel qui m'a empêché d'avoir un métier. Alors il regardait le ciel et il entendait aussi cette langue du ciel qu'il a réussi à transmettre dans des fragments qui sont d'une force absolue, précisément parce qu'elles viennent interrompre quelque chose dans la langue, pour trouver d'autres façons de réagencer les mots, d'autres façons de les faire résonner, d'autres façons de toucher directement le lecteur. Alors est-ce que ça suffira pour s'opposer aux GAFA et pour essayer d'empêcher M. Trump d'agir comme il le fait et de foutre en l'air la planète? J'en suis pas très sûr. Mais en tout cas, il vaut mieux qu'il y ait des poètes plutôt qu'il n'y en ait pas.
Alors vous avez évoqué la radio, vous avez évoqué Dubouchet à l'instant. J'ai tu jusqu'à présent le fait que vous avez été pendant 20 ans producteur à France Culture.
Très intermittent quand même.
Pas intermittent, mais pendant une longue durée, Les Nuits Magnétiques.
Mais oui.
À Voix Nue.
Mais oui.
Et puis...
Le Bon Plaisir.
Le Bon Plaisir. Hein. Et c'est dans ce cadre de l'émission Le Bon Plaisir que vous avez rencontré André Dubouchet. Un Bon Plaisir mémorable qu'on peut encore entendre. C'était en 1998. Oui. Parlez-nous de cette rencontre, Didier Caen.
J'avais le projet, évidemment, de le faire parce que c'était a priori difficile. Quand j'ai dit à mes amis, je vais essayer de convaincre André Dubouchet de faire Le Bon Plaisir, ils m'ont dit, n'y va pas. Et deux, si t'y vas... tu le regretteras, parce qu'il avait cette réputation idiote d'être un homme un peu hautain, un peu distant. Et puis, il connaissait un peu mon travail, il avait déjà entendu des émissions et il lisait un petit peu ma poésie. On se croisait comme ça de temps en temps et il a eu envie de relever le gant, j'ai l'impression. Et alors, je me suis lancé, j'y suis allé carrément. Je me suis dit, puisqu'on va faire 3 heures d'émission, il faut rappeler que Le Bon Plaisir, c'était 3 heures d'émission le samedi après-midi. Je lui ai dit, André, si vous en êtes d'accord, on va à Trunas. Trunas, c'était sa maison, non pas de campagne, ça, c'est un faux sens de dire maison de campagne, c'était la maison qu'il habitait dans la Drôme, où il écrivait, une maison tordue, comme on entend dans l'émission, une maison avec des pierres qui partaient dans tous les sens. Et il a souvent écrit, où il écrivait pratiquement tout le temps, en marchant sur les chemins de campagne autour de Trunas. Et je lui ai dit, écoutez, on va enregistrer là-bas. Alors c'était quand même assez osé de ma part, pour ne pas dire gonflé, pour reprendre le mot qui me vient à l'esprit, parce que déjà je lui fais un peu violence en lui proposant un exercice qu'il aime pas beaucoup, parler à la radio, même s'il le faisait merveilleusement avec Alain Weinstein. Il faut le rappeler, il y a énormément d'entretiens avec Alain Weinstein qui sont des purs moments de radio. Et là, donc, il a accepté, on est arrivé, on s'est fait tout petit avec Jean-Claude Loiseau, il faut le nommer, le réalisateur qui a beaucoup travaillé dans cette chaîne et qui était un grand réalisateur. Et puis on est parti sur les sentiers et on a tendu le micro. J'ai posé quelques questions, j'étais beaucoup moins bavard que je ne le suis ce matin. Et André Dubouchet s'appuyait sur les rencontres fortuites. Ça pouvait être un oiseau, ça pouvait être un nuage, ça pouvait être une demeure en ruine, ça pouvait être presque rien. Et à chaque fois, il nous faisait entendre des mots et il nous faisait entendre sa voix qui réarticulait les mots. Et le miracle, je crois, de cette émission, il y est pour tout et j'y suis pour rien, je peux le dire, c'est qu'avec quelques mots qui étaient simplement réagencés dans une langue très audible, il a réussi à nous faire rentrer dans un univers qui était son univers et qui n'était pas du tout un univers poétique comme on le croit parfois, fait de je ne sais quelle ouverture un peu facile au lyrisme. C'était au contraire un univers extrêmement rude, un univers qui était fait de matière brute, un univers qui nous renvoie au plus rugueux de la condition humaine, mais au plus absolu de cette condition. Un univers qui est celui qui nous habite tous quelque part, même si on n'en fait pas tous les jours l'épreuve.
Et est-ce que André Dubouchet, dans cette conversation au micro ou hors micro, a évoqué son rapport au judaïsme, Didier Caen?
Jamais, jamais. C'était, je dirais, presque un interdit. Non, il n'a rien interdit, c'est moi qui ne suis pas allé sur ce terrain-là. Il était effectivement juif puisque sa mère était juive. Je dirais que ça n'est jamais apparu directement ni dans l'œuvre, ni dans la vie, ni dans les propos. Je sais qu'il se sentait loin d'Edmond Jabès. Est-ce pour ces raisons-là ou pour d'autres raisons, je ne sais. En tout cas, je crois qu'il y a un immense champ qui s'ouvre à des étudiants qui ont envie de faire une thèse innovante et inventive. Le rapport d'André Dubouchet au judaïsme, mais à travers l'exil, à travers le rapport au livre, à travers l'éloignement, à travers les carnets qui étaient si importants pour lui, à travers tout ce qui est consigné dans ces carnets. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de carnets où il notait tout ce qui lui arrivait. Et il disait d'ailleurs, il suffit d'observer, je ne pense pas, je note, pour écrire de la poésie. Alors, il avait aussi une pratique, et je crois que là aussi, ça nous rapproche du judaïsme, du proto-judaïsme d'André Dubuchet, il avait une pratique extraordinaire qui consistait à traiter directement la matière du mot. Et à travers cette sensibilité à la matière du mot, je pense qu'on touche aussi à quelque chose du judaïsme. Et ces livres sont des livres qui peuvent paraître difficiles parfois parce qu'il y a pas mal de blancs, des mots qui semblent posés sur la page et qui sont posés de manière extraordinairement à la fois innocente et savante, les deux. Et il accrochait le soir venu ces mots comme une toile d'un peintre de manière à les avoir sous le regard. Et le lendemain, il y revenait comme un peintre qui viendrait retoucher en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il avait une fascination pour la peinture autant que pour la poésie. Est-ce que ça nous éloigne? Est-ce que ça nous rapproche du judaïsme? Là, je vous pose la question, Marc-Alain Watkins. C'est vous qui pouvez répondre, c'est pas moi.
Je sais pas si je vais répondre, mais c'est la question que j'allais vous poser justement. C'est-à-dire que ce rapport, je dirais, d'une écriture picturale,
oui,
où il y a une importance majeure du blanc, se retrouve chez Jabès et se retrouve chez Derrida, qui a beaucoup écrit sur le blanc, tous inspirés par Mallarmé, même si le blanc est mis en œuvre différemment, voire à l'opposé de ce que disait Mallarmé. Le rapport qu'il y a entre les mots, entre les lettres, oui, entre les phrases, c'est le blanc que l'on retrouve au centre des pensées de vos trois pères de façon différente. Derrida cite Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev dans son commentaire sur Jabès, qui dit que lorsque le Messie viendra, il ne lira pas les lettres noires sur blanc, mais les lettres blanches à l'intérieur du noir qu'on ne sait pas encore lire.
Mallarmé, non. Je crois que Mallarmé, il y avait un travail admirable, hein, mais formel. Et je crois que mes trois auteurs s'opposent absolument, point par point, à ce travail formel. Les blancs, chez eux, ce sont des silences écrits. Les blancs, ça traduit un rapport charnel à la langue. Les blancs, chez eux, correspondent à une interruption de la parole. Alors pourquoi les blancs chez Jabès? Parce que dans ce récit qui est au cœur du livre des questions de Sarah Youkel, il y a quelque chose qui ne peut pas se développer. Leur histoire dépasse tout récit possible. Et s'il y a tant de blancs qui viennent couper en quelque sorte la parole, c'est parce que devant un récit de ces rescapés des camps de la mort, il n'y a pas de mots ni de silence possible. Les blancs, je disais, sont des silences écrits, oui, mais c'est moins que des silences puisqu'ils sont écrits. Ils sont en dessous du silence ou au-dessus du silence. Chez Dubuchet, c'est pareil. D'une certaine manière, le blanc, il est fait pour nous permettre de toucher du doigt le mot, pour toucher du doigt le texte, pour toucher du doigt le livre. C'est en cela probablement que le rapport au judaïsme est malgré tout là chez Dubuchet. Et évidemment, si on parle du blanc chez les grands poètes, il faut parler de Paul Celan. Il faut parler de Paul Celan et de cette interruption qui vient. Paul Celan, on le sait, était de langue maternelle allemande. On sait que ses parents ont été déportés. On sait qu'il a connu les camps de travail, même s'il en a réchappé. Et il écrivait en allemand. Et les blancs viennent pour sauver la langue.
Alors peut-être est-ce là une réponse à votre question ou à notre question commune ce matin, parce que on n'aura pas tout dit, d'ailleurs on ne dira pas tout, si on ne souligne pas que André Dubuchet fut le traducteur de Paul Celan.
Tout à fait.
Un des traducteurs majeurs de Paul Celan. Alors, au début de votre livre, dans un entretien imaginaire avec vous-même, où vous faites les questions et les réponses, oui, vous racontez quelque chose de très personnel, et c'est pour cela que je me permets de vous en parler à ce micro. Vous dites, et vous l'avez évoqué dans la première émission, que vous n'êtes pas circoncis. J'ai pensé tout de suite à cette passion que Derrida avait pour cette question, dont il fit le thème et la problématique de l'un de ses livres les plus autobiographiques. Je pense bien sûr à « Circonfession », que l'on peut traduire comme « confession sur la circoncision », une façon de tourner autour de cette question de la circoncision, qui en hébreu se dit « mila », un mot qui signifie la coupure, circoncision du corps et circoncision du mot que Paul Celan a mis en poème et que Derrida a longuement commenté dans son livre intitulé Shibboleth. Je vois que vous avez apporté le recueil intitulé La Rose de Personne, où se trouve ce poème, dont on doit la traduction à Martine Broda. J'aimerais que nous vous entendions le lire, si vous le voulez bien, Didier Caen.
À un qui se tenait devant la porte, un soir, à lui j'ouvre ma parole. Je le vois trotter vers l'avorton le demi-glabre, le frangin né dans la botte crottée du reître, avec le membre sanglant de Dieu, l'homoncule gazouillant. Rabbi grincai-je, Rabbi Leuve. À celui-ci circoncis le mot, à celui-ci inscris le rien vivant au cœur, à celui-ci écarte les deux doigts difformes pour une parole de salut, à celui-ci ferme aussi la porte du soir, Rabbi. Ouvre grand la porte du matin, Ra.
Merci Didier Caen pour cette belle lecture, circoncision du langage dans ce poème. C'est un texte, un poème qui décrit une circoncision. On a un petit enfant devant nous et pourtant ce n'est pas le corps qui va être circoncis, mais le mot, tourner autour du mot, n'est-ce pas le travail essentiel du poète? Ce qui m'a fait penser à cette phrase très énigmatique de la grande poétesse russe Marina Tsvetaeva que Celan lui-même place en exergue de l'un de ses poèmes dans le même recueil « Tous les poètes sont juifs ». Comment comprendre cette formule pour la rendre universelle? Une interrogation sur l'être juif, le plus explicite chez Jabès, mais qui parcourt précisément nos trois auteurs, Didier Caen.
Oui, c'est un vœu pieux, c'est un espoir, c'est une volonté, c'est un rêve, c'est tout ça à la fois. Je ne suis pas sûr que tous les poètes soient juifs, mais je suis sûr que beaucoup de poètes sont effectivement presque juifs, ou juifs non juifs, comme je le disais de moi. Alors, j'ai envie, pour fuir une réponse impossible, puisque c'est à lire, c'est pas à expliquer, la poésie, c'est aussi répondre à la soif de l'inconnu. Et par conséquent, cette soif de l'inconnu, elle est partagée par tous. Et cette soif de l'inconnu, c'est aussi celle qui pousse le juif à vouloir être toujours plus juif que juif et à vouloir toujours pousser cette non-identité juive au maximum de ce qu'elle peut nous apporter et vouloir la pousser à bout de manière à je ne sais. Voilà. Et quand je vous parle de cela, je reviens au début de votre question et à ce que j'appelle mon propre complexe juif, puisque je ne suis pas circoncis, et j'ai une très belle histoire de circoncision terrible qui m'a, et qui dit beaucoup pour le poète que je suis et pour le juif que je suis. Il y a une quarantaine d'années maintenant, ce garçon a 40 ans, le fils de mon meilleur ami est donc dans l'assemblée, le rabbin dit, est-ce qu'il y a un Cohen? Et mon ami Paul, dont ce fils était, voilà, le nouveau-né dit oui, mais comme mon ami Paul, on était allé 20 fois en vacances ensemble, on était gamin, il m'avait vu à poil, il savait que j'étais pas circoncis. Et donc tout d'un coup, panique à bord, et Paul, devant toute l'assemblée de ces juifs pieds noirs, bien comme il faut, dit Oui, il y en a un, mais il n'est pas circoncis. Et donc, je devais imposer les mains comme ça pour la Brit Mila, et la grande question, il avait la trouille, quoi, vraiment, que j'aille porter la poisse à ce gamin. Donc le rabbin a confirmé, m'a demandé si ma mère était bien juive, et a confirmé que je pouvais effectivement mettre mes mains, ce que j'ai fait, et Michael va très bien maintenant. Et donc, je me suis retrouvé au cœur, véritablement, de ce que j'appelle mon complexe juif, et qui probablement fait de moi le poète que j'essaye d'être, cette espèce de mal-être. Alors quand je dis complexe juif, il faut l'entendre dans tous les sens du terme. Voilà, à la fois je suis complexé de ne pas être mieux juif que je ne suis, je fais tout pour essayer de l'être à ma façon et en trouvant mes propres ressources, et en même temps j'ai l'impression d'être un juif d'une certaine complexité qui passe à travers la lettre, la poésie, le mot et ce rapport extraordinairement sensuel au mot comme tout le monde peut le vivre. C'est dans ça que chacun, sans être poète, peut être juif.
En vous écoutant, j'ai l'impression que vous essayez de dire que le judaïsme et que le juif, comme nous l'avons déjà souligné, esquissé la semaine dernière, ne désigne pas une entité historique, biologique. Vous avez parlé de filiation, être juif par la mère. Et j'ai l'impression que les poètes que nous évoquons, que ce soit Celan, que ce soit Jabès, que ce soit Dubouché, ou même Derrida, essaye de penser le judaïsme au-delà de la dimension stricto sensu d'une dimension soit de peuple, soit de religion, mais une catégorie universelle de l'humain dont vous venez de dire quelques valeurs, la complexité, la transcendance de soi, la recherche, le questionnement, et même lorsqu'on évoque Dieu, comme le fait Jabès à longueur de page, c'est pour nous rappeler, comme je le dis souvent, que l'étymologie de Dieu vient du mot « oulai », qui veut dire « peut-être », que Dieu est un doute, et Jabès en parle très longuement. Et donc, n'est-ce pas la poésie, ne serait-elle pas la porte qui permet de défaire le mot juif d'un enfermement et de l'ouvrir à l'universel, sans bien évidemment nier l'histoire à laquelle ce terme est raccroché, Didier Cahen.
Deux apostrophes, deux mots écrits par Jabès, juif, J-U-I-F. Voilà, la façon dont chacun, qu'il soit juif ou pas, peut effectivement écrire juif et Dieu. Il l'écrivait parfois, pas toujours, des apostrophes Y-E-U-X, comme ce regard multiple, en quelque sorte, qui veille sur nous et qui veille sur le livre. Après tout, le livre est universel, après tout, l'écriture est universelle, après tout, les lettres sont la propriété de personne. Et à partir du moment où on écrit, à partir du moment où on est sensible aux lettres et à la lettre, je crois qu'effectivement, l'universalité, elle parle pour personne et elle parle pour tous.
Mais chaque poète s'essaye de façon différente de se confronter au langage. Vous êtes vous-même poète, Didier Cahen. Comment écrire de la poésie à l'ombre de ces trois pères? Comment et pourquoi êtes-vous entré en poésie? Quelle nécessité ou quelle urgence? Ou tout simplement, quel désir, Didier Cahen?
D'abord en s'en détachant. J'essaye d'écrire de la poésie, je ne dirais pas que c'est un souci permanent, mais en ne singeant pas mes maîtres, je crois que c'est en cela que je leur suis fidèle. Alors j'écris de la poésie et j'écris des essais, et quand j'essaye pour moi de réfléchir un petit peu au rapport des deux, je me dis, d'un côté, il y a un jeu, le jeu moi, qui écrit des essais, qui fait des choses, qui sait à peu près ou qui croit savoir ce qu'il dit, puis il y a d'un autre côté un jeu habité par l'autre, par son altérité. C'est celui-là qui écrit de la poésie et qui est complémentaire. Ce qui est assez amusant, c'est que mes essais sont souvent bavards, comme je peux l'être au micro, où on explique, on comprend, on revient, et j'aime parler de mes pères. Et puis, ma poésie est anorexique. Ma poésie, elle est faite de rares mots qui sont décomposés, même s'ils se tiennent, j'espère, en tout cas. Et c'est une manière de rentrer au plus profond de moi-même et de m'écouter. Un tout petit exemple. Dans un de mes poèmes de déjà-vu qui s'appelle « Empreinte », il y a un mot qui revenait, quand je travaillais ce poème, il y avait un mot qui revenait tout le temps, ce que Jabès appelle les mots obsessionnels, et qui était le mot « rien ». C'est pas rien, le rien. Voilà. Puis, il y a un moment où le poète que je suis a dit, il y en a un peu assez de ce rien, c'est un peu banal. Bon, ça a été rabâché par les poètes, il y en a assez. Et tout d'un coup, je ne sais comment, travail du poète, le rien s'est transformé en chien. Et tout d'un coup, ce poème qui était écrit autour du rien et qui était une méditation de plus, une poème de plus, etc., s'est mis à devenir l'aventure d'un chien qui parle pour moi. Alors, c'est d'autant plus amusant, c'est que je suis pas très animaux. Peut-être juif de ce point de vue-là, il paraît que les juifs n'aiment pas les animaux, j'en sais rien. Enfin, voilà, j'aime pas les animaux, j'ai un mauvais rapport au chien. Et donc maintenant, j'ai ce chien qui parle pour moi, qui aboie, qui n'est pas rien, qui est rien. Et ça, c'est une merveilleuse manière de dire je suis habité par ce chien qui me court après, qui m'aboie dessus et qui tout d'un coup a trouvé quelques lettres, deux lettres, un C et un H, pour venir habiter le rien et pour venir chasser le rien. Le chien chasse le rien. C'est pas mal ça. Heureusement, il a
et en même temps,
boosté ailleurs.
Le CH, qui est le début de chute dans le sens de silence, a chassé l'air. Est-ce que c'est pas un peu problématique de ne plus avoir de R dans le chien?
Non, parce que le chien m'a aidé à respirer, et c'est cet air-là qui importe, celui qu'on respire.
Est-ce qu'on peut l'entendre, ce poème du rien devenu chien?
On peut en entendre un très court extrait, alors, oui. Voilà, alors je prends au hasard un petit peu dans ce poème qui s'appelle Empreintes, hein, les empreintes. Deux yeux nourrit là-haut un équipement de vide. L'ange et son frère. Meurtri, le chien dressé qui sèche. Une goutte de pluie, de vie, de l'eau et de la terre. On cherche dans sa mémoire. Pas fou le chien. On compte sur les doigts de l'hiver. Vaut le détour, là-bas, une somme de lettres. Un C, un H qui traîne, un non-visage de haine. Quelqu'un? Plus loin? Rien que des miettes de pain, la nuit s'épuise, on vérifie son rêve, on se demande pourquoi, on ne décide pas comme ça. Donc vous voyez, le chien, il est aussi à la recherche de quelque chose qui est plus loin, là-haut, très haut, peut-être plus haut que la hauteur, peut-être plus loin que le loin, peut-être moins chien que le chien. Ça me rassure.
Ça me rappelle ce que disait Duboucher à propos de la pureté chez Hölderlin. Je cite Duboucher, il disait « Plus on travaille la traduction, la version obtenue, plus on revient à l'état littéral. Mais cet état littéral ne peut pas être d'emblée obtenu. L'esprit du traducteur rejoint l'état du poète, j'ai l'impression. Plus Duboucher écrit, plus il revient à l'état littéral de l'être. Il lui faut des pages de carnet, des pages très concentrées, pour aboutir à la concentration maximale, découpée, blanchie, à la littéralité du texte, là où ce qui se dit et ce qui se dénude se calcifie, Didier Caen.
C'est un long travail de dépouillement, et un travail d'ailleurs qui se passe sur des années et des années. Non seulement je me retrouve complètement, et c'est en cela que Duboucher est un père, évidemment, dans ses leçons de poésie admirables, mais j'ai appris aussi, je crois, au cours des années à approcher cette simplicité, je l'espère en tout cas. Ce que je sais, c'est que dans mes premiers textes que j'écrivais sur mes pères, c'était souvent très touffu, très compliqué, très... Je me cachais sûrement un petit peu derrière tout ça. Et maintenant, un de mes amis me dit parfois, il travaille dans l'édition, Stéphane Barzac, que ce qu'il aime chez moi, ça me touche, c'est la simplicité, et j'espère que j'arrive à cette simplicité et à ce dénuement. Parce que c'est comme ça qu'on engage le dialogue avec l'autre, et avec soi-même par conséquent. Mais l'autre est plus important. Après tout, si on fait ce travail soi-même de poète, si on fait ce travail sur soi, c'est en espérant le partager avec d'autres et en espérant qu'il parlera à d'autres. C'est là aussi l'universalité que de dire « j'ai une parole à la première personne, mais j'espère et je fais tout pour que d'autres se reconnaissent dans cette expérience et dans cette parole. » Et la nudité... Quoi de mieux pour partager finalement quelque chose qui nous est commun et essentiel à tous ?
Merci Didier Caen pour ces deux semaines passées en votre compagnie. Je rappelle le titre de votre livre, Trois Pères, Jabez, Derrida, Duboucher, qui paraît aux éditions du Bord de l'Eau. Un livre qui parle de votre passion de la littérature, de l'urgence de la poésie, de cette dimension de l'humanité partagée par les mots. J'ai été très heureux de cet échange qui m'a rappelé de très beaux souvenirs de rencontre aussi avec Edmond Jabez. Et je signale aussi votre dernier recueil dont on a eu la chance que vous nous lisiez quelques vers, intitulé Déjà vu. Merci encore Didier Caen.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wakenin, à la prise de son aujourd'hui Bruno Morland, à la réalisation, encore tout en poésie aujourd'hui, Dany Journeau. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique, Coltouv, Le Hitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.